Merci beaucoup par cette ouverture. Est-ce que donc Pierre Van Eclo, c'est dans une certaine réaction dans la salle, est-ce que tu veux prendre le micro, on commence le débat?
Voilà. C'est par rapport aux avocats. Moi, je suis retraité et je regarde la télé régulièrement et je vois que l'image des avocats ne correspond pas au contrôle de l'éthique que vous énoncez. C'est-à-dire que il me semble que l'avocat est prisonnier d'un certain nombre d'institutions et que le rôle qu'il tient n'est pas évidemment pour moi une garantie de l'exercice de l'éthique telle que je conçois l'éthique. Et d'ailleurs, je dirais que c'est la même chose pour le directeur d'un hôpital. Je pense que l'éthique est un lieu tout à fait pertinent, mais qui ne peut pas s'intégrer et s'identifier au fonctionnement institutionnel officiel d'un certain nombre d'établissements, et voire même de notre République. Je pense que le lieu éthique se situe ailleurs, autrement. Alors évidemment, après on tombe dans la question de la religion, la morale, etc. Mais tout de même, je pense qu'il faut accepter un écart entre le système institutionnel éthique et l'ensemble des autres systèmes institutionnels. Mais bon, j'ai pas que ça à dire. J'ai même des demandes.
Peut-être que sur cette première proposition,
j'avoue que je n'ai pas très bien compris le lien entre. Si vous parlez de l'éthique de l'avocat, c'est un autre sujet, mais je crois qu'on n'est pas là pour en parler. Hein. C'est pas l'éthique de l'avocat dont il est question aujourd'hui.
C'est... Parce que vous avez osé dire que vous étiez garant du fonctionnement éthique.
J'ai pas dit du tout que j'étais garant du fonctionnement. Enfin, je pense pas avoir dit ça. J'ai dit qu'il était important que nous puissions être associés à la réflexion sur ce point. Je ne crois pas avoir dit autre chose. Ou alors je me suis mal exprimée.
Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Allos pour l'institution et l'éthique.
C'était pas l'institution, c'était le directeur, le manager. Donc je rejette. Alors, je pense que l'exclusion ou la volonté d'exclure est en soi non éthique. Donc par définition, il me semble qu'au contraire, à l'intérieur d'un établissement, et quel que soit le professionnel, enfin je dis bien tous les professionnels, alors je reprendrai, merci Monsieur le Président de l'avoir évoqué, tous les acteurs de soins sont concernés. Je pense qu'effectivement tous les acteurs de l'établissement sont concernés par effectivement la démarche éthique. Si effectivement on commence à jeter un anathème en disant « Ah non, non, celui-là ne veut pas participer à l'éthique », je crois qu'effectivement c'est une démarche non éthique.
Attends, voilà, bon, peut-être précise.
Il s'agit de fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire que en tant que directeur d'un hôpital ou en tant qu'avocat ou en tant que psychiatre, on est, comme disait monsieur l'infirmier, sans j'ai oublié le nom, on est dans un contexte et on est pris dans une institution qui nous rémunère aussi, ou pour laquelle on justifie notre rémunération. Et donc, en tant que directeur, on a une position différente au niveau institutionnel que celle de l'infirmier, du psychiatre, du patient, de la famille, etc. Et c'est simplement ça que je veux dire. En tant qu'homme, d'homme à homme, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, on a pu échanger. Mais on a des rôles à tenir, des fonctions, des statuts, et c'est très différent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il ne me semble pas que ni le président de la République, ni le directeur de l'hôpital, ni le bâtonnier puissent effectivement, de par son statut, sa fonction, son rôle, garantir la notion de l'éthique. L'éthique, c'est autre chose. C'est entre nous. Enfin, c'est la question de l'humanité.
Oui,
et par exemple, à propos de l'humanité, on a beaucoup parlé d'humanisation des hôpitaux. Et depuis qu'on parle d'humanisation des hôpitaux, on est dans une déshumanisation de plus en plus grave des relations interhumaines.
C'était un débat très intéressant. C'est un débat très intéressant et il est au cœur du problème. Moi, je pense qu'effectivement,
cela signifierait que l'institution est suffisamment puissante pour et le rôle à l'intérieur de l'institution est suffisamment puissant pour interdire à certains d'avoir une démarche éthique parce que l'institution n'est pas éthique. Alors à ce moment-là, effectivement, il y a là quelque chose qui m'interpelle et auquel je ne partage pas, enfin que je ne partage pas.
C'est une question un peu...
Madame Esquèque, je vous propose de vous présenter quand
oui,
vous
voulez. Oui, je suis Madame Esquèque et je travaille à l'UNAFAM depuis 16 ans. Voilà, alors j'en ai entendu depuis 16 ans, vous vous en doutez. Mais moi, je voudrais poser une question à monsieur le directeur de l'EPSM Lille Métropole. Il a dit tout à l'heure qu'on pouvait en parler librement, que c'était une question de gouvernance. Alors je lui pose la question. Dans son hôpital... Il y a dans certains secteurs, il y a des médecins qui sont, au point de vue de l'éthique, irréprochables. Et il y en a d'autres, dans ce même secteur, qui se conduisent vraiment comme des mufles. Alors, est-ce que monsieur le directeur peut agir? Comment ça se passe dans un secteur? Pourquoi il y a des médecins qui sont vraiment remarquables et d'autres, dans le même secteur, qui sont vraiment des salauds? Excusez-moi du terme, parce que c'est vraiment ça. Alors, est-ce que ça dépend du monsieur le directeur de l'hôpital de Lille Métropole? Mais cette question, elle se pose aussi. Ces exemples se posent également à Armentières, mais aussi bien à Lomelé, Bonafé. Hein. C'est toujours la même question.
Oui, non, mais la question va se poser dans l'ensemble des structures institutionnelles. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'affaire de tous. La réponse à votre question, je vais passer la parole à monsieur Allo, je pense que si, dans une situation difficile ou complexe, etc., c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du patient, et s'il ne peut pas y répondre, il ne va pas pouvoir aller voir le directeur, il ne va pas pouvoir écrire, c'est peut-être l'affaire de l'entourage. Et je pense que c'est aussi à l'entourage de pouvoir questionner l'équipe et les médecins, l'infirmier, le directeur sur ces questions-là. Je vais passer la parole à monsieur.
Non, madame Esquèque, moi je crois là aussi qu'une démarche éthique et une démarche qualité permet d'isoler les mauvais comportements, les dysfonctionnements, qu'ils soient individuels ou collectifs, et de les réparer, hein, ou plus exactement de les arrêter. Alors vous me posez la question, pourquoi cela existe-t-il? La réponse pourrait être la loi de Pareto, mais partout nous avons évidemment des gens qui n'auront pas le respect, et justement ça me permet aussi de répondre à la question précédente. Puisqu'il y a des différences entre les individus et les personnes, il y a bien une implication sur l'éthique des personnes, donc on ne peut pas... on ne peut pas dire que c'est l'institution qui est fautive lorsque, effectivement, ce sont des comportements individuels qui sont pris, en éclairage. Alors évidemment, moi je suis convaincu par contre que la démarche éthique, à l'intérieur notamment de la démarche qualité, puisque ce que je vous ai expliqué c'est une démarche stratégique managériale, permet à un moment donné... d'éviter notamment de recruter les pas bons, mais surtout de faire comprendre à ceux qui ne sont pas dans la démarche, et qu'ils soient d'ailleurs médecins, directeurs, infirmiers, c'est pas du tout l'exclusive, il ne s'agit pas de stigmatiser une profession par rapport à une autre. Nous pouvons avoir également d'autres professionnels qui ne sont pas dans la démarche. À un moment donné, il faut effectivement trouver la méthodologie qui aboutit à responsabiliser chacun, pour prendre un euphémisme.
Merci. Monsieur Skag.
Oui, je crois que effectivement, monsieur Allos a tout à fait raison. Il y a dans la démarche qualité, je crois, une base philosophique qui est très intéressante pour effectivement, améliorer l'éthique des comportements. Seulement, le problème est le suivant, c'est qu'actuellement, la question de la qualité dans les systèmes de soins, elle est limitée à l'organisation et elle ne rentre pas dans la thérapeutique. Et là, il y a un problème, parce que ces médecins dont parlait ma femme, ils défendent leur position, parce qu'ils disent « je soigne comme ça ». Et là, c'est un autre problème éthique qui, à mon avis, est très important. Nous souffrons tous de la grande hétérogénéité de la psychiatrie française. Vérité en deçà, erreur au-delà. la personne mène son secteur, tout le monde en est très content, on dit ah, c'est formidable, voilà un bon secteur. L'autre à côté, il peut faire une psychiatrie il y a 50 ans, personne ne lui dira rien. L'autre à côté, il peut, dans son action thérapeutique, ne pas être éthique. Et là, ben, la démarche qualité, elle ne dit rien. Donc là, il y a un problème, à mon avis. Il y a un problème. À mon avis, c'est un dans la psychiatrie surtout, qui ne peut malheureusement pas toujours avoir, je dirais, l'uniformité d'une démarche scientifique. Parce qu'une démarche scientifique, c'est par définition uniforme. Quand on n'a pas à sa disposition la connaissance, parce que c'est normal, à ce moment-là, chacun a sa conception. Et il y a des conceptions qui ne sont pas éthiques. Et c'est là, comment l'éthique peut-elle pénétrer la thérapeutique, hein? Ça, je ne sais pas, c'est pas facile du tout. Mais c'est très important. C'est très important, parce que le médecin qui dit « Monsieur, c'est pas vous que je soigne, etc. », il développera ça en fonction de sa thérapeutique. Il dit « Moi, je soigne comme ça, vous comprenez ? Et je soigne comme ça, et par conséquent, j'ai le droit de soigner comme ça, et vous n'avez rien à me dire. » Vous voyez, c'est là. Donc c'est vrai que la démarche qualité, à mon avis, est un bon outil, mais malheureusement, elle ne s'applique qu'à l'organisation et pas à la thérapeutique.
Plusieurs réactions, voilà, allez-y. On va faire le tour ici aussi.
Ah ben là d'où je suis infirmier à l'EPS Samael de l'agglomération lilloise. Moi c'est juste une remarque, et en fait c'est par rapport à la notion d'inadéquat. J'ai entendu parler de déshumanisation effectivement des hôpitaux. À un moment donné, les inadéquats sont apparus, alors que moi j'avais un idéal dans mon travail, la manière dont les mots sont utilisés au sein d'un établissement. Et là, est apparue la terminologie d'inadéquat. Inadéquat à quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Et donc, j'ai cru que c'était une espèce d'humain qui arrivait là et qu'on mettait de côté. Autre remarque, on parlait aussi de bien-traitance, maltraitance. La formation qui est obligatoire, au niveau de la chaîne, je crois, ce sont des recommandations, mais en tout cas, elle est obligatoire. Est-ce que c'est un principe d'obliger tous les agents d'un établissement à se former à la bien-traitance ou maltraitance? Est-ce que c'est éthique?
Bon. Je vais passer la parole aux collègues après. Sur la question des inadéquats, c'est vrai que c'est apparu et c'est vraiment une horreur. Au fond, en général, ce sont les structures qui sont inadéquates. Ce ne sont pas les patients. Voilà, il y a eu une inversion complète du terme, mais bon, qui questionne très fortement. Après, voilà. Docteur Breton.
Oui, je voudrais revenir sur le problème d'éthique avant, et donc sur la qualité des soins, sur l'éthique. Hein. Et donc, il faudrait revenir à la qualité éthique personnelle et éthique professionnelle. Et pour revenir à ce que vous disiez, madame, on ne peut pas faire évoluer avec tous les meilleurs manuels qualité du monde. Une éthique personnelle, il faut en être foncièrement imprégné, et il y a quand même des soignants qui travaillent avec cette éthique personnelle et qui font du bon travail. Et donc pour faire changer, si vous voulez, les personnes qui sont plus ou moins maltraitantes ou qui ne traitent pas de la même façon, ça relève de l'éthique personnelle. C'est quelque chose qui est, et donc on essaye avec toute la qualité des soins et l'organisation arriver à justement avoir une meilleure qualité, une meilleure éthique professionnelle, mais il y a toujours, mais foncièrement moi je suis persuadée qu'il y a énormément de personnes qui ont une éthique personnelle extrêmement élevée, qui font d'excellents professionnels avec une éthique professionnelle d'extrêmement bonne qualité, et qui se croisent avec tous les référentiels qui peuvent aider et qui arrivent à améliorer cette prise en charge en soins. Mais le professionnel est avant tout un citoyen, et on est quand même à l'intérieur d'une représentation de ce qu'est la société, et on ne peut pas demander à ce que notre société professionnelle soit extrêmement plus élevé que la société.
Merci bien. Merci pour votre intervention. Maurice, une minute, je vais passer la parole.
Merci, je voudrais revenir sur la démarche qualité. On est quand même réunis ici pour réfléchir et travailler ensemble comment servir au mieux une personne malade d'une pathologie mentale. C'est dans cette dimension de service que va venir se nicher l'éthique. Et c'est dans cette nécessité de travailler tous ensemble au service de la personne malade qu'intervient la réflexion éthique. Donc c'est forcément quelque chose qui ne peut pas se décliner à un niveau individuel, c'est-à-dire d'un médecin unique, seul. Et en plus, l'expérience du soin nous prouve que tout seul, on n'arrive à rien et qu'on est nécessairement un ensemble. Et l'éthique, justement, vient nous obliger à travailler cette mise en commun. Alors les démarches qualité, elles sont extrêmement intéressantes et à la fois, il me semble, dangereuses. Elles sont très intéressantes parce qu'elles devraient normalement immédiatement interroger l'éthique. À partir du moment où tous ensemble, et quand on dit tous ensemble, c'est les professionnels du soin et je pense également à l'association de malades et bien évidemment les représentants de la société civile, quand on va réfléchir ensemble comment écrire, par exemple, un protocole, une procédure de bien-traitance du malade, ben c'est à ce moment-là qu'on va devoir se questionner en éthique. Je pense que c'est à la racine de la démarche qualité que devrait se placer au niveau de l'institution, et si j'entends, au niveau du travail ensemble, la démarche éthique. Mais le problème des procédures, des recommandations professionnelles, de vérifier qu'on a bien travaillé comme c'est indiqué et c'est recommandé, le problème en santé mentale, et je crois ça en neurologie, en pathologie neurologique chronique, c'est quelque part, bon, c'est peut-être, et là c'est personnel, hein, j'ai l'impression que c'est un peu réducteur, c'est-à-dire qu'il nous manque une part de créativité qui est pourtant absolument nécessaire à créer cette relation. Je me permets de me répéter, je suis désolée, en matière de prise en charge du handicap mental ou cognitif, ce qui est essentiel, c'est cette valeur thérapeutique de la relation au malade. Et nos démarches qualité sont extrêmement importantes pour faire des protocoles qui nous permettent de mieux travailler ensemble, mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche, que ça nous bride, cette recherche de cette créativité soignante qu'un infirmier, qu'un médecin, qu'un psychiatre, qu'à la famille, cette nécessité de créer quelque chose au service de la personne, mais forcément ensemble. Donc l'éthique n'est pas individuelle. L'éthique, c'est la réflexion, comment servir ensemble une personne à un moment donné, à un endroit donné, et c'est toujours sur la table. La démarche qualité, c'est autre chose, il me semble.
Créer ensemble et avec le patient.
Donc, vous voulez intervenir, monsieur Etienne ? Peut-être que je vais relancer de toute façon par rapport à vous, monsieur Etouin, si vous permettez. Parce que j'ai envie de dire, c'est bien gentil la relation, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis assez méfiant de tout ce qui peut prendre comme ça une dimension religieuse. Ben oui, on peut faire des incantations. Et donc, signaler pour ceux qui ne savent pas que j'ai accepté la responsabilité d'une centaine de patients dit inadéquat à la psychiatrie active. Donc je dirais que peut-être qu'en vous entendant, je suis vraiment au cœur de l'éthique. Certains d'ailleurs, quelquefois, me considèrent comme un grand malheureux. Il se trouve par ailleurs, donc, un certain nombre de personnes dans la région, pas seulement des médecins, des infirmiers, des administratifs, choses. On demandait de bien vouloir représenter un certain état d'esprit et que je me trouve avec le délégué régional dans la Fédération Croix-Marine qui porte, je crois, depuis longtemps toute une série de questionnements sur cette question de l'éthique, ne serait-ce qu'à l'époque où on mettait les gens à l'extérieur sans se préoccuper. Ils étaient plus fous, ils n'avaient qu'à se débrouiller. C'était bien avant que le médico-social et tout ça, ou social, soit institué. Et donc, en vous entendant, et chose aussi, ça me faisait terriblement réfléchir à ce que j'entends souvent reprendre par le docteur Jean-Ry,
hein, la différence entre l'État glissement, hein, ça vient de glissement, c'est un mot du vieux français, de ce qui revient à l'État, qui rentre dans l'État, par rapport effectivement à ce que c'est que l'institution, l'institutionnel, et à quoi ça doit nous référer, nous, en tant qu'être humain, parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein, ce qui est effectivement du registre de l'institution, même en faisant tous les glissements de signifiants éventuellement qu'on veut par rapport à choses. Et comme j'ai un petit peu l'habitude hein, de vous côtoyer tous, et je suis d'ailleurs aussi parmi vous, très régulière dans d'autres tâches, en particulier de psychiatre, j'étais très frappé sur le fait que ce soir, oui, vous expliquez les choses en intéressant, des valeurs, des choses, mais finalement, vous tenez votre discours habituel d'établissement dans vos places. Chose. Et c'est pour ça que je voudrais renvoyer un petit peu par rapport à ce que nous rapportait M. Étoin, hein, où en écoutant ce qui était posé, je me posais une question qui, plutôt donc parler de règles, c'est la déontologie, c'est la question de l'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? L'éthique, ça ne s'écrit pas, à mon connaissance. C'est effectivement une question de réflexion, et je pense que ce soir, c'est une question particulièrement importante, puisque nous sommes justement à nous demander ce que peut être cet espace de réflexion éthique dans la région concernant donc un peu plus spécifiquement peut-être la santé mentale dans le cadre donc du GIP de recherche. Oui, j'ai entendu donc effectivement des retours hein, d'expression d'usagers. En tant qu'avocate, vous avez entendu également éventuellement certains propos de ce type. Et je me posais une question, effectivement, parce que la vraie question, c'est de quel côté se pose le savoir. Et donc, si j'ai bien entendu ce que disent quand même, me semble-t-il, quelques-uns, parce que je ne sais pas s'ils sont beaucoup à le dire, parce que je regrette beaucoup, je croyais qu'historiquement, quelqu'un avait marqué qu'effectivement, le savoir était du côté de celui qui est en souffrance, quand on cherche à être centré sur lui, puisque ce sont les mots, effectivement, de nos règles déontologiques désormais. Bien, et ça me faisait penser à une vieille affaire qui remet les choses, puisque l'étude, je crois, sous le contrôle de Pierre Youb, je crois que ça vient de la Grèce, hein, quand même. Bon, et je pensais à cette vieille affaire, je ne suis pas sûr que ce soit Platon, mais en tout cas c'est Diogène, hein, qui, avec son phare, là, sa lanterne, cherchait un homme. Et est-ce que ça ne pourrait pas être justement notre questionnement, hein, c'est au travers de ceux qui expriment, d'une manière ou d'une autre, dans une demande, dans une non-demande, hein, M. Esquel, vous reprenez souvent, c'est... mais où quand même, on se rend compte qu'il y a une souffrance, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein, mais effectivement, qu'est-ce qu'un homme? Où y a-t-il de l'homme? Et est-ce que nous n'avons pas tout simplement déjà, sur le plan éthique, et quels que soient nos savoirs, parce qu'il en faut, hein, ça ne dépend pas du tout les non-savoirs, bon, et des savoirs extrêmement divers, et comme vous en, on en témoigne tous les uns les autres de façon différente ce soir, depuis nos places et aussi en tant que personne, hein, en tant qu'individu, bon, qu'est-ce que effectivement la personne, les personnes en souffrance psychique peuvent nous amener à nous faire découvrir, à nous faire comprendre, à nous faire saisir, à nous faire élaborer effectivement de cette question qui est celle de notre humanité. Et qu'est-ce que c'est que notre humanité ? Moi, j'ai l'impression qu'est-ce qu'on ne pourrait pas essayer quand même de centrer chose. D'abord que l'éthique, c'est quelque part, c'est ça. Nous ne savons pas, finalement, comme disait Freud, quand on assume la première rencontre avec quelqu'un, il faut d'abord savoir qu'on a à tout oublier de tout notre savoir antérieur. Hein, bon, effectivement, il y a le laïcoute. Bon, que se produise effectivement de la rencontre, au sens grec du terme, la tuké. Hein, effectivement, et donc de mettre les conditions pour ça, hein, au travers de toute une série d'aléas, bon, et que finalement, qu'est-ce qui peut effectivement se saisir, s'approfondir? Moi je dirais que par rapport aux, on dit maintenant les usagers, même si M. Delion un jour m'a fait la remarque en me demandant comment tu écris ça, je commence à devenir bien usagé, effectivement. C'est quand même ce que j'ai... plus saisir, même par rapport à des engagements antérieurs que j'ai eu quand même assez jeune et qui se poursuivent d'ailleurs, qu'est-ce que depuis la personne qui témoigne
hein, témoin, il y a aussi quelque chose de l'ordre martyr, hein, sur le plan étymologique. Bon, qu'est-ce qui effectivement peut nous faire progresser tous, y compris sur le plan sociétal, d'une compréhension peut-être un peu plus approfondie, toujours différente, bon, effectivement, de ce qu'il en est de notre humanité, qui nous pose par ailleurs, sur le plan social en général, me semble-t-il, de sacrées questions à l'heure actuelle. Merci.
Merci,
monsieur Docteur Breton, je remercie beaucoup. J'ai eu l'occasion de venir chez vous souvent, quoi. Et, ouais, bien sûr. Mais faire preuve d'humanité, me semble-t-il, c'est très important. Alors, on parle d'obligation de se soigner, disons, obligation de porter un soin à personne. Donc, le tout être terre, comme on appelle, prendre soin d'eux. C'est très important. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens bienveillants qui ont porté une attention très particulière et structurée à ma personne. Et j'étais dans un service inadéquat. Donc, ça prouve quand même qu'il y a quand même du personnel attentif. Maintenant, ce qui est à remarquer, pour aller dans le prolongement de votre propos, peut-être il faut des gens. Et c'est ça, on ne peut pas soigner des gens, on ne peut pas soigner des dossiers, on charge trop le personnel aujourd'hui avec des démarches administratives. Et donc, quand une personne n'est pas libre, il faut qu'une autre la remplace, il faut une main dans la main. C'est ça qu'il faut. Donc, quand on ne se sent pas abandonné dans le soin, on va mieux en mieux. C'est pour ça qu'on peut élaborer des projets, mais avec une tonalité. Tout le temps, moi, que j'allais dormir le soir, mais j'étais tranquille le lendemain, je disais, voilà, il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi. Et quand il y a un abandon dans le soin, on a l'impression de ne plus exister. Et c'est pour ça que c'est très important de refonder l'éthique sur le personnel, à ne pas l'encombrer, excusez-moi, monsieur le directeur, de trop de trop, parce qu'il en faut quand même. Cette prise en charge, c'est la qualité dont vous parlez. Et c'est vrai que si on n'en dispose pas de temps aux personnes, on ne pourrait pas donc faire avancer les personnes ou les faire sortir.
François Lequin, directeur de l'accueil des affaires financières de l'EPSM de l'agglomération lilloise. Juste une question, pourquoi la HAS préconise l'installation de ces espaces éthiques dernièrement? Alors certes, il y avait des espaces éthiques qui existaient dans certains établissements depuis de nombreuses années, notamment en soins palliatifs et en SIDA, on n'en parlait plus. L'éthique, la démarche éthique, elle doit être permanente. Maintenant, on me dit, voilà, il faudrait que vous installiez un espace. Alors, depuis une vingtaine d'années, dans les établissements, il y a eu différentes commissions qui ont été mises en place, le clan, etc., qui étaient bien ciblées parce qu'effectivement, il y avait un ordre du jour, il y avait des règles que nous devions respecter dans ces instances. En revanche, sur l'espace éthique, c'est une certaine liberté au niveau des établissements pour aborder les missions qu'elles souhaitent. Et est-ce que cet espace qui est préconisé par la HAS, qui donc a mis la démarche qualité en place, en pensant que la qualité, on allait régler peut-être l'ensemble des problèmes et éventuellement une évaluation par cette démarche qui n'évalue pas forcément les démarches de soins, il ne faudrait pas que cet espace, semble-t-il, soit un alibi pour, dans un contexte financier. Alors nous, en santé mentale, nous sommes plutôt sereins parce que nous ne sommes pas dans la T2A. Il ne faudrait pas que cette démarche, il y a un risque, me semble-t-il, à ce que ce soit un alibi pour prendre certaines décisions de management. Ça, c'est une interrogation. Et effectivement, je pense que moi, ces espaces doivent permettre, parce que là, j'ai entendu effectivement différents intervenants, et les propos que j'ai pu entendre, on les a déjà entendus de différentes années, les partenariats, usagers, psychiatres, etc. Nous n'avons pas besoin de mettre un espace éthique pour régler ces problèmes. Et peut-être que ces espaces devraient être le lieu en santé mentale pour effectivement être un espace de réflexion par rapport aux valeurs que peuvent avoir des soignants et par rapport au vécu qu'ils peuvent avoir, peut-être par rapport à des contraintes financières où les gens ne s'y retrouvent plus. Effectivement, vous avez évoqué prendre soin. Il est là, je dirais, les différentes commissions qui peuvent être mises en place pour nous obliger à répondre à certaines obligations. Et des fois, le prendre soin est inexistant dans ces réflexions.
Peut-être un premier élément, c'est que le comité d'éthique ou l'espace éthique n'est pas obligatoire. La HAS ne le demande pas. Non, c'est même pas préconisé. Enfin, en tous les cas, pas dans la fiche ni dans le manuel. Mais bon, ça peut être un élément et c'est ça le danger. Tu as parfaitement raison de l'évoquer. C'est-à-dire que si le comité d'éthique est un nouveau comité module, c'est une erreur. Et c'est même pire que bien. Enfin, je veux dire, surtout sur un sujet comme celui-ci, on le voit bien ce soir. Donc on voit bien l'importance du débat. Donc on voit tout ce que ça touche, enfin ça touche au plus profond de notre fonctionnement de toute façon. Donc si effectivement, alors que c'est nouveau, alors que c'est important, alors que c'est un débat moderne et qui a de la valeur et qui a de la valeur ajoutée, on se débarrasse du problème en mettant en place ce comité, c'est une erreur. Ou cet espace, c'est une erreur. Mais par contre, que ce comité ou cet espace fonctionne, et c'est là que on peut se demander à tous ce genre de pratique et ce genre d'échange. Moi, je reprends l'expression partenariat. Oui, effectivement, l'échange de savoir-faire, c'est aussi un échange, c'est aussi un partage de butin. Donc, dans cet espace, l'usage ou l'utilité de la fédération régionale est très grande dans ce cas-là. Si elle peut, nous devons bien sûr nous mettre en route et faire le maximum dans le contexte, mais un partenariat, un parangonnage entre tous les établissements, comme on l'a vu pour la chambre d'isolement, c'est aussi un excellent moyen de se reconstituer, enfin de se comparer et d'éviter justement que cet espace éthique ne soit qu'une réunionnite de plus.
Pierre-René Clos.
Oui, alors c'est un peu terrible en fait de ressentir. Donc Pierre-René Clos, je suis psychiatre, ancien chef de service à Valenciennes, et désormais retraité, et militant Croix-Marine, donc président d'une association à Valenciennes, et chargé de l'organisation des Journées Nationales Croix-Marine à Lille en septembre 2010, auxquelles je vous invite à participer tous. Parce qu'en fait, effectivement, entre la Croix-Marine et la Fédération Recherche de Santé Mentale Régionale, il y a des points communs, et notamment au niveau de l'éthique. Alors, je repartirai sur la problématique individuelle au niveau de ma charge de travail de chef de service pour apporter un élément de réponse à Bertrand Esquègue sur la question de mais comment est-ce que l'éthique peut aller s'allier, s'intégrer au thérapeutique. Moi je dirais que à de multiples reprises je me suis retrouvé moi-même, seul, en responsabilité par rapport à des situations, je dirais, entre guillemets, impossibles à gérer, et qu'il fallait que je gère. Et j'avais les référentiels d'organisation du système hospitalier, thérapeutique, les références, etc. Et j'avais ma conception de ce que je devais faire pour le patient qui était en face de moi, avec la famille, avec l'équipe, etc. Et donc, combien de fois je me suis dit, mais voilà, donc... je prends le risque de cette décision par rapport à la personne qui est en face de moi et effectivement je sais ce que je risque au cas où ma décision serait mise en cause pour différentes raisons dont le comportement du patient. Et donc ce que je voulais souligner c'est que on ne peut pas réduire le système d'organisation thérapeutique, je dirais déontologique, au système éthique. Et à plusieurs reprises, je ne sais pas combien de fois, j'ai pris le risque d'une décision, soit d'isolement, d'hospitalisation, soit à contrario, de sortie, etc. Et ce risque, je l'ai pris individuellement, en fonction de mon éthique personnelle, professionnelle, mais personnelle. Et avec l'idée que c'est moi qui prends le risque et qui... risque d'être conduit devant la justice avec le système judiciaire qui est comme le système hospitalier parfaitement compétent et en même temps très insatisfaisant et pas complètement crédible si je peux me permettre et voilà donc la question elle est posée là et en tant que personne ancien responsable et même désormais en tant que président d'une association, j'ai des responsabilités, j'ai des choix à faire comme le directeur et ça passe au niveau donc de notre personne et de nos références à nous. Et après je repartirai sur le collectif parce que justement il me semble qu'on ne peut pas accepter d'être enfermé dans le piège que j'étiquerais sarkozien de la responsabilité personnelle Et en plus, je rajouterai que le collectif a un aspect thérapeutique que je regrette que mes successeurs ne prennent pas en compte. Parce qu'ils sont formés à la prise en charge individuelle, et c'est complètement une erreur, me semble-t-il, par rapport à la prise en charge d'un certain nombre de personnes souffrant de troubles psychiques qui ont besoin de collectifs. Et nous-mêmes, d'ailleurs, si nous sommes ici, c'est que nous avons besoin de collectifs. Et il y a une dimension éthique au collectif, mais il y a aussi une dimension d'efficacité thérapeutique, etc. Voilà, donc c'était pour raccrocher à M. Étouin qui disait « les médecins se trompent de traitement ». Donc figurez-vous que moi j'apprends que je me suis trompé de traitement institutionnel avec les appartements associatifs, communautaires, etc. Il y a tout de même 50 places, 50 personnes qui sont actuellement logées dans des appartements associatifs. Et il paraît que ce montage est pas thérapeutique. Pour résumer un peu la position de certains acteurs responsables aussi, mais nouvellement responsables sur Valenciennes. Ce qui est tout de même interpellant au niveau de l'équipe qui doit passer d'un psychiatre à un autre et de référentiel à d'autres référentiels, et notamment pour la prise en charge des patients et de la communauté des patients. Voilà, donc je souhaite personnellement que ces sujets concrètement soient abordés concrètement par la fédération de recherche en tant que thème de recherche qui pourrait intégrer les PIP au sens de ce que Bertrand Esquegg énonçait tout à l'heure comme question.
Mais tout à fait, merci. La soirée. Le but de la soirée, c'est que chacun amène au fond un matériau au collectif dont tu viens de parler. Et réellement, je crois que ce soir, nous avons eu des points de vue, des façons de percevoir le questionnement autour de l'éthique qui sont partagés. Et voilà, bonne chose. Une question ? Ah, excusez-moi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui a intervenu.
Oui, suite un petit peu à ce que dit le docteur Van Eclos, on s'aperçoit, mais on en était bien persuadé, que le métier de psychiatre est certainement, je dirais, quand même très difficile, parce qu'effectivement, il est amené à prendre des décisions sans trop savoir pourquoi, comment. On apprécie tout à fait, je veux dire, cette complexité. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il est bien seul, ce psychiatre, finalement, devant justement ces graves problèmes. Et je reprends un petit peu ce que disait ma voisine, j'ai tendance aussi à dire que l'éthique, c'est pas l'éthique individuelle, c'est il y a quelque chose de commun, ou il devrait y avoir quelque chose de commun, de façon que cette éthique puisse aider justement l'individu qui quelquefois n'a pas toujours les repères qu'il faut, etc. Alors il y a aussi une phrase de l'abbé Lamennais qui me revient à l'esprit, qui disait « La loi libère et la liberté asservit ». C'est pas parce que c'est vrai que la loi protège. Dans le commun, parce que la loi exprime quelque chose de commun, finalement. Dans cette idée de commun, il y a une protection. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la psychiatrie institutionnelle ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de collectif qui protège. Par contre, quand on dit la liberté asservie, ça veut dire effectivement qu'on est vulnérable à la sauvagerie de l'homme, parce que l'homme est un sauvage, hein, faut quand même bien le dire. Nous sommes tous des sauvages. Donc si on est libre, ben, évidemment c'est très dangereux. Et ça va avoir aussi, par exemple, avec ce que disait M. Étouin sur le soin sans consentement ou pas. Je veux dire, les problèmes effectivement de personnes qui, on disait autrefois, perdent la raison. C'est souvent des personnes qu'il faut aider, qu'il faut protéger. On le voit bien avec les tutelles. Il n'y a pas que le soin qui est sans consentement. La gestion des biens aussi peut être sans consentement. Et on voit bien que la tutelle, et c'est ce que nous expliquons souvent aux familles, parce que pour la famille c'est un chemin aussi difficile à gravir, on explique souvent que la tutelle a des apparences de restriction de liberté, mais c'est justement pour que la personne puisse être plus libre. C'est-à-dire en étant protégée, et qu'effectivement elle puisse exprimer finalement, par exemple être autonome, pouvoir vivre dans la ville sans être assaillie par des gens qui vont lui piquer tout son fric, etc. Donc c'est un moyen de liberté. Donc le non-consentement peut être un moyen de liberté. Et là, il faut réfléchir à ça. Et c'est vrai que les personnes qui souffrent de ces maladies graves font l'objet de lois d'exception. Il y a quand même la loi sur les tutelles qui est une loi d'exception. On gère vos biens à votre place. Quand le tuteur se met en place, il dit « tu me donnes ta carte bleue, tu me donnes ton chéquier, tu me donnes... » Hein, c'est quand même dur. Hein. Bon, là, le fameux article, alors j'espère que je ne me trompe pas, l'article du code pénal 122.1, qui dit que si vous avez les facultés abolies, eh bien, vous n'êtes même pas responsable. Enfin, même si vous avez fait les pires choses, vous n'êtes pas responsable. C'est quand même encore une loi d'exception. Donc, dans le soin aussi, il y a des lois d'exception. Je veux dire, il y a quand même, là, des situations où il faut protéger, quoi. Bon, alors, je reviens simplement à mon histoire d'éthique. Ce que je voulais dire, ça, j'y tiens un petit peu, c'est qu'au fond, parler d'éthique, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que c'est quand même une valeur difficile à porter. On côtoie la langue de bois continuellement. Hein? Et qu'est-ce qui peut nous sauver de la langue de bois dans un débat si difficile? Il me semble que c'est justement, et là on en vient finalement, je ne sais pas, on va faire probablement un conseil d'éthique, je ne sais pas, hein? On ne fait pas un conseil local d'éthique, c'est un peu dans l'air. Je sais qu'à Sainte-Anne, moi j'étais à Sainte-Anne cet après-midi. Voilà. Alors ils m'ont dit tous là-bas qu'à Sainte-Anne, ils mettaient en place un comité d'éthique local. Voilà. Alors un comité d'éthique, ça sert à quoi? Parce que là, c'est bien, on discute, on aime beaucoup discuter. Je veux dire, il faut se méfier de la parole. Vous savez que je dis toujours que les Africains, je pense aux Dogons par exemple, ils disent que la parole c'est un habit. Hein? Et de même qu'on ne s'habille pas pour aller au bal comme quand on va au turban, on ne parle pas de la même façon quand on est dans une assemblée d'éthique et puis quand on fait autre chose. Donc la parole n'est pas toujours ce qui exprime la vérité. C'est aussi un habit dont on aime bien se parer en quelque sorte. Donc si le comité d'éthique ne fait que des paroles, ça va être difficile. Je pense qu'un comité d'éthique pourrait émettre des avis par exemple. Un avis, c'est bien, c'est consultatif, ça choque pas trop, mais ça rentre quand même un peu... À un moment donné, ça dit quelque chose, quoi. Parce qu'on a bien vu que les avis sont différents. Mais si on n'arrive pas à dire quelque chose, ça n'avancera pas beaucoup. Donc la question qui serait importante, et je reviens à l'idée du commun, quoi, c'est que communément, enfin ensemble, qu'on puisse dire quelque chose qui aura la légitimité de cet ensemble, et qui aide finalement... Le psychiatre, par exemple, qui tout seul doit prendre des décisions comme ça, qui engage quand même sa déontologie, s'il est tout seul, on pourrait lui donner des repères qu'un comité d'éthique pourrait peut-être assembler. Assembler, ça veut bien dire commun. Hein, ça veut bien dire. Donc, en résumé, je crois que l'éthique, c'est pas personnel. C'est pas parce que l'éthique personnelle, je ne sais pas ce que c'est. Ça, et, par contre, ça doit être quelque chose de commun et donc qui doit être exprimé par un comité d'éthique, à savoir comment il est constitué, qui donne des avis et que ces avis, tels la loi qui protège, permettraient de donner aux gens, dans des domaines comme ça difficiles mais qu'il faut bien résoudre, permettraient de donner quelques repères, quoi. Donc voilà, c'est commun et c'est, je dirais, des repères.
Quelques remarques sur les propositions de monsieur.
J'ai vraiment envie de rebondir et débattre sur cette question de la collégialité. Il me semble que dans ces situations, on a toujours affaire à des. Dans cette problématique, on a toujours affaire à des situations singulières. Et autant j'entends tout à fait, je soutiens l'idée d'une collégialité, d'une mise en commun des réflexions, d'éventuellement de décisions issues de cette collégialité, autant je craindrais, si elle se détache des relations singulières, que finalement elle puisse plus s'appliquer à la singularité de chaque cas. Je verrais plutôt une collégialité qui se décline au niveau même du problème posé singulier. C'est-à-dire qu'on imaginerait, j'invente rien, comme d'autres l'ont inventé en d'autres situations extrêmes, et là je rejoins tout à fait votre point de vue, il existe des situations extrêmes, des situations difficiles, à forte tension éthique, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, situations complexes, où évidemment on s'est mis bien animal et on est confronté avec des conflits de valeurs, c'est là où l'éthique intervient. Et dans ces situations complexes, enfin, d'autres en réanimation par exemple, ont imaginé, et je pense que c'est pas le législateur qui a imaginé, c'est la société qui a imaginé, de poser la collégialité de la discussion, mais à un niveau tout à fait individuel du problème posé pour un malade donné dans une situation donnée. Et c'est là où je pense que un espace éthique doit avoir pour mission de pouvoir débattre comme aujourd'hui pour qu'on s'enrichisse mutuellement de nos points de vue. Ça, je crois que c'est une fonction première. Et l'autre fonction, c'est de peut-être permettre de soutenir également des moments comme cela où il y a besoin d'organiser la collégialité de la réflexion en commun. Là, je vous rejoins à tout à fait, je pense. Enfin, c'est mon point de vue, du moins.
Bonsoir.
Alors, peut-être là, et puis après, Pierre Van Eyck.
Gilles Barthes, je suis psychiatre. Je voulais intervenir sur deux petits points, en fait, sur la démarche qualité, qui, moi, pose un peu un problème avec l'éthique. Là, on est vraiment dans quelque chose de la qualité, ça vient de la production, pour le côté productif, production de soins, TSA, PAP. Là, je pense qu'il n'y a plus la singularité, hein, on fabrique des protocoles, on fait des choses qui sont systématisées et on perd le côté singulier de la relation. Et puis aussi avec par rapport à la loi HPST, à l'organisation de l'hôpital, où effectivement on voit que le directoire a d'énormes pouvoirs, le directeur a d'énormes pouvoirs, il n'y a plus du tout une dialectique avec la CME, puisque effectivement il nomme, il décide, il va bientôt créer des contrats. Et là aussi je pense qu'il y a une problématique d'éthique de gestion de l'hôpital qui se pose. Donc c'est vrai que M. Sieck, vous disiez... il faudrait donner des avis. Est-ce que une telle commission pourrait aller jusqu'à donner un avis défavorable à la valorisation de l'activité en psychiatrie, un avis défavorable aussi à cette loi HPST? Je pense que c'est aussi le risque à prendre. Hein, donc, si on veut que ce soit... il faut pouvoir aller donner jusqu'à des avis qui seraient assez forts. Je vous remercie.
Je remercie Gilles Barthes de ce qu'il dit parce que j'adhère complètement et donc je remercie aussi Bertrand de me renvoyer que l'éthique personnelle ça n'existe pas. Donc ça c'est tout de même une question qui peut être abordée ici et discutée. Et je faisais référence à mon éthique personnelle. Quand je dis ça, je crois que je dis que je fais référence à un certain nombre de valeurs que mes maîtres et ma pratique m'ont appris. Et je pense que je fais référence à un certain nombre de mécanismes d'ordre collectif tout de même. Mais néanmoins, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des décisions qu'on prend personnellement et que sans doute, c'est peut-être ça qu'il faudrait rajouter au niveau thérapeutique, que sans doute c'est cet engagement personnel au niveau professionnel qui opère quelque chose d'ordre thérapeutique, ou en tout cas qui est important dans la relation avec l'autre et qui va être signifiant et signifié pour les gens avec qui on travaille. J'ai en tête par exemple une histoire épouvantable où le jeune patient en fait se fugue de l'hôpital et malheureusement se jette sous un train. Mon collègue était un peu en difficulté avec le papa qui revendiquait et qui menaçait d'aller sur le plan juridique pour obtenir réparation de je ne sais quoi. Or, effectivement, la relation établie m'a permis de discuter tranquillement avec le papa qui était lui-même accompagné de sa propre mère et d'ailleurs de comprendre mieux encore certaines choses que je n'avais pas compris au niveau de la famille. Et en fait, tout s'est apaisé. Donc, je veux dire, la décision qu'on avait prise de ne pas complètement isoler ce patient pour pas le faire mourir, parce que quand on est isolé à perte de vue, je dirais, on n'existe plus. Hein. Voilà, et donc elle a été comprise dans une relation interpersonnelle. Et le risque que j'avais pris, ben, je l'ai assumé jusqu'au bout. Et finalement, avec la famille. Voilà. C'est important tout ça. Ça pèse lourd. Mais voilà. Donc, et ça, c'est des problèmes éthiques, je pense. Mais c'est pas une éthique personnelle. Ben, je sais pas comment dire alors après. Si c'est pas une éthique personnelle, c'est un fonctionnement personnel par rapport à une éthique commune. Tout
merci. Monsieur François.
Donc, moi, il me semble relativement assez clair que le débat qu'on a ensemble ce soir a déjà deux forces assez prégnantes. La première, c'est de montrer et de révéler une fois encore, une fois de plus, l'ensemble des divergences, des différentes opinions, des positionnements qu'on peut tous avoir en fonction soit de notre rôle, soit de notre vécu, soit de notre culture, de notre histoire personnelle ou collective. Mais la deuxième force surtout de ce débat, c'est en relatant, on en évoque certaines ce soir, mais il y en a certainement d'autres aussi, les tensions qui sont sous-jacentes à l'initiation d'un débat éthique, bah, c'est de montrer la charge qui nous incombe individuellement à chacun là où on se trouve, dans le contexte dans lequel on se trouve, mais aussi collectivement dans ce même contexte ou ici. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, j'entends le débat sur le niveau d'intégration individuelle ou collective de l'éthique, je pense qu'il faut peut-être se poser la question des deux, c'est-à-dire que l'acteur isolé, dans un contexte de soins, ne bénéficiera d'aucun autre éclairage que de son vécu, si le temps ne lui permet pas de réfléchir à la situation et lui impose un acte rapide. Comme M. Vaniclaud citait dans son exemple, par exemple, voilà, je suis seul dans ce contexte, j'ai bien à décider seul dans ce temps qui m'est imparti. Toutefois, effectivement, ça s'ancre dans un vécu, dans un collectif passé et dans la façon avec laquelle on se l'approprie. Donc, je crois vraiment qu'il faut ne pas dissocier l'individu et le collectif, et c'est bien ensemble, c'est-à-dire au niveau de l'humanité, j'entendais M. Breton qui posait la question de l'humanité tout à l'heure, l'humanité oui, comment on va favoriser l'expression de l'humanité au sens de l'intention d'un être vers un autre être, mais aussi de la collectivité de cette humanité au sens de l'ensemble. Et je pense que dans cet ensemble dans lequel nous nous trouvons, à différents postes, à différentes situations, à différents moments, dans différents contextes, il faudra de toute façon être traversé par la continuité du questionnement éthique, cette continuité qui nous traverse à la fois dans l'acte et dans notre vécu. Et je crois qu'au niveau de l'espace éthique, on aura peut-être à réfléchir sur, de toute façon, cette existence certaine de tensions qui parfois seront amoindries, parfois continueront, parfois seront arrêtées, mais il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et c'est au cœur de ces tensions comment, dans l'acte ou dans l'action que nous devons mener, réfléchir à l'aspect extrêmement pratique de l'amélioration de notre fonctionnement et de l'amélioration du sens que chaque personne a à avoir dans sa relation avec l'autre au sein même d'un contexte. Alors, effectivement, je reprends les paroles de Mme Danet tout à l'heure. Oui, la question du collectif et du positionnement collectif d'un éventuel avis, on peut se poser cette question effectivement, et au cœur de la question du rôle de l'espace de réflexion éthique, notamment régional, la question de se poser, voilà, y a-t-il oui ou non un intérêt à le faire? Si oui, comment? Mais je pense que ça doit passer par le crible quand même de certaines questions préalables, à la fois de l'intérêt et des enjeux et de la nécessité que ça peut avoir. Sous-entendu, globalement, est-ce qu'une recommandation régionale, éthique, ne serait pas inscrite au cœur même d'un ensemble déjà existant de certaines recommandations, et en quoi, comme disait Mme Danel, elle viendrait véritablement modifier une pratique singulière dans un contexte précis qui est déjà traversé par de nombreuses lois, de nombreuses recommandations. Je prends l'exemple des droits de l'homme, par exemple. On parlait de l'humanité, donc on interroge la question des droits de l'homme. Si on interroge la question des droits de l'homme, à différents niveaux, on la retrouve, et dans des recommandations quelquefois extrêmement précises, au niveau de l'OMS, au niveau de l'ONU, au niveau des nations, au niveau local, au niveau quelquefois régional, quelquefois même au niveau singulier. Et pourtant même, dans les institutions ou dans les endroits du monde où les droits de l'homme sont les plus dits, comme disait M. Exkeg, ils ne sont pas forcément les plus respectés. Et dans les endroits où ils sont le moins dits, ils peuvent toutefois être respectés. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver l'harmonie, difficile certainement, mais en tout cas de se fixer comme but de ne pas aller qu'à la recommandation, mais vraiment essayer de permettre d'être un acteur au cœur d'un contexte de soins, un acteur conscient de ce contexte et réellement acteur de ce contexte. Et en cela, je crois véritablement qu'il faut être conscient dans chaque acte qui est notre acte individuel ou collectif du poids de à la fois la singularité de notre action mais l'éclairage nécessaire que peut être celui de la démarche éthique. La démarche éthique, c'est aussi apprendre à mesurer et maîtriser son contexte, le connaître, mais surtout oser se laisser traverser par ce qui n'est pas notre fonctionnement et ce qui est l'ensemble des différents éclairages qui nous entourent. Faire appel aux éclairages possibles qui sont nécessaires pour éclairer, au-delà de notre avis sur une question, cette même question et cette même action qu'on va mener au cœur de ce contexte.
Je veux simplement dire quelque chose et peut-être pour répondre à ce qui a pu être dit. L'avocat que je suis, et je représente les avocats, je pense qu'on ne doit pas nous réduire au rôle de celui qui fait le procès, celui qui va chercher la responsabilité du médecin, etc., et qu'on est plus que ça. Et si on a pu être associé à cette réflexion, c'est parce que tout simplement, je pense qu'en tant qu'avocat et... moi, par exemple, je suis une pénaliste, donc on réfléchit sur l'homme en souffrance, la façon de les aider, etc. On est, je pense, aussi bien placé pour réfléchir, par exemple, à un sujet comme la contention dont on avait parlé, l'isolement, pourquoi, comment, et à réfléchir en amont de cela. Et notre rôle ici, et ma présence ici, je pense qu'il ne faut pas nous renvoyer toujours au procès, à la responsabilité. Bien sûr que les avocats sont perçus par certains médecins comme cela, nous sommes aussi autre chose. Et je crois que c'est à l'avocat qui réfléchit sur effectivement une charte de bonne conduite et pourquoi un psychiatre fait à un moment donné un acte qui est parfois un acte qui porte effectivement atteinte aux libertés, dans quelles conditions il fait, et nous qu'est-ce que l'on pourrait dire à un usager qui se plaindrait de cet acte. C'est important qu'on puisse être associé à cette réflexion-là, et encore une fois, il ne faut pas nous cantonner, parce que c'est très pénible, à chaque fois, à celui ou celle qui va traîner le pauvre médecin devant les tribunaux. Je crois que nous sommes autre chose que cela.
Oui, d'ailleurs, vous êtes aussi des penseurs, des psychiatres qui sont traînés devant les tribunaux.
Merci.
Il y avait une micro...
Oui, Sylvain Dufour, je suis psychologue à l'EPSM Lille Métropole. Je souhaitais revenir sur la perception qu'on a du mot éthique. Pour plusieurs personnes, pour les deux soignants aussi avec lesquels j'ai discuté, c'est quelque chose qui n'est pas à interroger dans le sens d'une construction ou d'une amélioration, parce que c'est à la limite un préalable aux soins. Si on n'a pas une expertise quasiment en éthique, on ne peut pas exercer. Je pense que l'éthique, c'est un petit peu comme le bonheur, c'est que ça se construit. Il faudra peut-être, à la limite, pouvoir faire diffuser l'idée que on a besoin de travailler cette construction éthique, de pouvoir se poser des questions chacun, d'évoluer par rapport à ça, parce que ce n'est pas forcément inné et qu'on peut tous avoir des réflexions des façons de faire qui ne sont pas forcément éthiques et dont on peut prendre conscience uniquement si on a déjà plus réfléchir à ça, à le travailler. Donc si on avait la possibilité d'aller voir les soignants, de désacraliser un petit peu l'éthique, qui n'est pas un jugement, qui n'est pas forcément un préalable, qui est forcément un a priori, mais qui est une construction également, et pour dire que bah, si on, là, on peut progresser en éthique, et de travailler avec les personnes cette question éthique, j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant, mais voilà, peut-être que vous avez des divergences.
C'est un cheminement, une construction, une co-construction, ça ne peut pas être une recommandation de notre propos. Enfin bon, ça, j'invente rien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très, très inscrites depuis très longtemps dans la réflexion éthique, qui le justifieront mieux, je ne saurais le faire, mais l'éthique, je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais qu'il y a une co-réflexion, il y a une co-construction, il y a une mise en commun de valeurs, il y a une décision collégiale quand c'est possible. Mais on peut peut-être s'interroger aussi, existe-t-il des situations en pratique de soins en santé mentale qui ne permettent pas cette collégialité de la décision. Là, je vois un thème qui peut être très, très, très fréquent. L'éthique, c'est un cheminement. Donc ça ne peut pas être des recommandations venant d'en haut. Ça peut être une mise en commun de réflexion à un niveau X, qu'en haut ou en bas, on ne sait rien, il y a titre du haut et titre du bas. C'est plutôt à partir de nos pratiques qu'on va être questionnant. Questionnant, on peut débattre tous ensemble, mais des recommandations venant d'en haut, je pense qu'en effet, on peut considérer que ce n'est pas possible, puisque c'est une co-construction. Je vous rejoins. Je pense que l'idée que vous venez de donner est tout à fait bien.
Oui, moi, effectivement, enfin, pour rebondir sur ces deux interventions, je pense qu'il y a vraiment deux tensions peut-être qui traversent l'éthique, dont très différentes. Enfin, effectivement, l'éthique, c'est d'abord une réflexion qui engage chacun d'entre nous, avec une réflexion collective dans les situations données. Je pense que là, il faut une liberté de parole, et c'est vrai qu'un des enjeux, ça va être de savoir si on peut mettre en place à l'hôpital de tels lieux où, effectivement, malgré les enjeux de pouvoir multiples, là je dis quelque chose que tout le monde connaît, enfin, et qui se retrouvent à des niveaux extrêmement différents, est-ce qu'il va être possible de véritablement mettre en place des conditions où, effectivement, il y a une liberté de parole, de réflexion pour réfléchir sur justement les prises en charge, enfin, tous ces aspects-là. Alors, peut-être que les comités éthiques, en étant justement une démarche collective dans une situation donnée, pourront permettre de donner un avis qui aura une valeur simplement dans une situation concrète et pas de manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect d'éthique, alors peut-être qu'il ne faut pas appeler ça éthique, mais pourtant, c'est effectivement toutes les règles de bonne conduite ou de bonne pratique, les recommandations. Alors, qui alors, c'est, oui, est-ce qu'il faut l'appeler différemment ou pas?
C'est pour ça que je voulais intervenir. Je veux dire, ne faisons pas à nouveau, c'était dit, un ensemble de règles et d'avis. Parce que ça, c'est pas de l'éthique. C'est bien, c'est une question. Et qu'en définitive, il ne faut quand même pas oublier que justement, au-delà, et c'est très intéressant, cette question de collectif, il y a un chose à se prolonger, parce que l'histoire de collectif et de collégialité, finalement, donc je pense que plutôt que de dire qu'on est contre, on pourrait peut-être dire qu'on est pour le secteur, parce que zut, c'était ça qui était la base du secteur quand même. C'est qu'effectivement, on n'est pas tout à fait seul, quand bien même on est dans un certain nombre de rôles. Hein, même si à un certain moment, il y a peut-être un qui devra prendre la décision, mais justement en fonction de tout ce qu'il aura. C'est le fonctionnement du collectif. Je rappelle d'ailleurs qu'éventuellement, Joury a fait tout un séminaire là-dessus, sa dimension du collectif. Et justement, repris sur un plan philosophique. Hein, c'est, le séminaire est disponible maintenant, il est paru. Bien. Donc, je pense, et puis je dirais, rappeler donc qu'effectivement, quand même, la base de l'éthique, c'est toute la discussion avec Antigone et Créon, quoi, hein, il y a quand même une loi qui est au-dessus des lois, la loi des dieux et tout ça, bon, et que je dirais que c'est justement quand je dis, c'est pas de l'humanité dont je parlais, c'est de l'humanitude, hein, puisque ça commence à être pris d'ailleurs en matière de personnes âgées, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Je pensais avoir fait un néologisme quand j'ai trouvé ce mot après quelqu'un sur une autre chose, et puis j'ai découvert après, comme souvent, ça m'arrive souvent, que le concept existait déjà. Bon, ça m'a rassuré, d'ailleurs j'étais moins psychotique que je ne le pensais, mais que je pouvais craindre. Et donc je voudrais rebondir sur ce qui a été dit de façon très différente, la question de la liberté. Bon, ça fait un certain temps donc quand même que je réfléchis sur ces dimensions, et que s'il y a quelque chose que la santé, l'écoute, qu'on appelle la santé mentale, parce que à la fois j'ai... au cœur, en même temps, je ne sais toujours pas très bien ce que c'est. Hein, non, parce qu'il y a des gens qui se croient normaux. C'est ça qui est terrible. C'est pas... Bon. Et que donc, on est au cœur avec cette question des libertés, avec la façon dont on essaie d'articuler. C'est une question, parce qu'on ne va jamais pouvoir en définir, en donner de tout ça une définition précise. C'est bien ça la question de l'éthique. C'est-à-dire qu'on essaye de cerner avec, chose, avec des discussions, les réflexions des uns et des autres, quelque chose, justement, qui, par définition, est la question des... qui peut être que cerné, Non, c'est aussi la question de la construction des impossibles en mathématiques, voyez-vous, ça c'est pas bon. Et qu'on est dans une question effectivement, bon, et comment on se débrouille avec cette affaire qui finalement est une affaire humaine. C'est pas l'affaire de l'animal, hein, ce dit en passant les choses. C'est parce que effectivement nous sommes dans une certaine dimension qui nous est propre en tant qu'être humain et qui nous met en difficulté, puisque de toute façon l'harmonie, hein, ça le montrait, le psychisme est conflictuel, donc l'harmonie, on essaye, le droit c'est fait pour essayer d'arranger un peu les choses, mais de toute façon c'est un discours qui est EST. Donc je suis celui qui suis, ça peut renvoyer, il faut faire très attention. Vous voyez comment on peut sans arrêt renvoyer. Et donc s'il y a quelque chose auquel on va arriver, et c'est un petit peu ce qui était dit, c'est que la liberté en soi, ça n'existe pas. Soit dit en passant, les droits de l'homme, la liberté c'est au prix de donner sa vie pour elle. Il faudrait peut-être le rappeler ça. C'était ça qui est dans le chose. Il n'y a pas de liberté si on n'est pas prêt à donner sa vie pour elle. Hein? Voilà le prix à payer. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un prix à payer. Bon, et que la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas justement toute réflexion menée pour saisir pourquoi en définitive nous ne sommes pas libres et pour reprendre pourquoi il faut des lois qui nous protègent, bon, ou en fait comment nous sommes astreints d'une certaine façon à une loi pour laquelle nous n'avons jamais passé le moindre contrat, mais qui nous tombe quand même dessus parce que nous sommes des êtres humains. Hein, et que c'est tout ça qu'il faudrait essayer de travailler, et auquel donc on ne donnera jamais de réponse absolue, on ne donnera jamais de système de règles définitives, et qui fait que c'est beaucoup plus complexe, effectivement, que certaines solutions qui conduisent effectivement actuellement, après avoir dit qu'il ne fallait pas trop enfermer, maintenant qu'il faut dire qu'il faut tous les enfermer.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Merci.
Bonsoir, Jean-Philippe Cobot, responsable du centre médical de l'Institut catholique de Lille. Je voulais juste intervenir ici pour dire que j'étais fort intéressé par le débat et que je trouve qu'une question importante à laisser ouverte, c'est effectivement celle du lieu de l'éthique. Et dans le cadre d'un espace éthique en constitution, le fait de pouvoir laisser la question du bon lieu pour mener cette réflexion ouverte et en permanent, je dirais, en permanent questionnement, est vraiment quelque chose d'important pour qu'elle puisse aller se loger là où véritablement les problèmes se posent, les questions sont soulevées et qu'elle ne devienne pas, comme vous le disiez, une langue de bois, ce qui peut souvent être le cas.
Merci. Monsieur.
Juste pour rebondir un peu sur ce qu'a dit le docteur Breton, qui parlait du secteur comme modèle de collectivité. Je dirais que ça, c'est un peu... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une idée platonicienne, quoi, ça. Je veux dire, nous n'avons que des ombres de secteurs. Et justement, là, la question... Quand nous nous plaignons, finalement, du comportement d'un médecin, c'est que, justement, dans le même secteur, on trouve le blanc et le noir, quoi, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de collectif. Hein. Comment peut-on imaginer, dans un secteur qui représenterait une collectivité, que des comportements de médecins soient si quelquefois orthogonaux, complètement, et qu'on ne puisse rien y faire? Ça, c'est le désespoir, hein, je veux dire. C'est le désespoir de l'usager, ça, je veux dire.
Peut-être finalement la question, quelle vérification de l'éthique personnelle.
Pratiquement, je vais le dire de manière vraiment caricaturale, hein, mais quelle vérification de l'éthique personnelle serait-il indispensable par rapport à tous les engagements idéaux, notamment le secteur, avant effectivement d'embaucher quelqu'un? Ce serait presque à renvoyer les choses. Bon, monsieur Allot, il ne va pas répondre, hein, parce que c'est épouvantable comme question. Mais et comment ça se procède? Toute une question. Bon, et que effectivement, nos systèmes à l'heure actuelle, tels qu'ils sont organisés, il n'y a pas la moindre once de quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui là-dessus. Hein. Mais ceci dit, je n'ai pas la réponse. Hein. Je vais prolonger votre question. Bon.
Merci bien. Est-ce qu'il y a encore des interventions souhaitées au niveau de la table? Monsieur Allos.
J'ai quand même envie de répondre à ces deux questions qui sont revenues de manière récurrente en disant mais comment vous faites pour finalement sanctionner ce qui n'est pas bon et finalement vous laisser en suspens ce qui n'est pas bon. Ben, la première des questions aussi, c'est qu'en général, il faut, pour qu'on puisse sanctionner, c'est connaître les faits. Déjà, c'est un élément important, et je le dis publiquement, là aussi, moi aussi. Et deuxième point, pour ce qui concerne, cela réglera cette première question. Puis la deuxième, je ne peux pas laisser penser que, mais là, l'intervenant de tout à l'heure est parti, que les démarches qualité, c'est uniquement de la norme, c'est uniquement de la bureaucratie, etc. Et le meilleur exemple d'une démarche qualité que nous avons réussi grâce à la fédération, c'est les audits croisés dans matière d'isolement. L'isolement thérapeutique, c'est un bel exemple d'une démarche de qualité, d'ailleurs fondée aussi sur un concept éthique. Parce que là où le droit n'existe pas, car le droit n'existe pas curieusement dans l'isolement, hein, je crois qu'on peut le dire très clairement, et le soin existe, mais le soin ne peut exister, là en l'occurrence, il ne s'appuie pas sur la règle, il s'appuie sur l'éthique. On le veuille ou non, et là, dans la mesure où il y a carence du droit, il y a nécessité d'éthique. Donc je répondrai que, un, l'éthique est nécessaire, deux, c'est un débat excellent, trois, les démarches qualité sont particulièrement utiles et on verra évoluer. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien quand on voit les résultats qu'on a obtenus dans ces démarches. Il faudrait afficher les indicateurs et peut-être que demain on montrera nos propres les indicateurs d'éthique, mais ce n'est pas encore le jour demain. Mais je crois qu'on est capable de présenter objectivement des résultats qui sont des démonstrations claires de l'évolution de la psychiatrie dans cette région et de la santé mentale en évolution de qualitative de la réponse aux besoins de la population.